conversation avec Hanan Arat. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Rosalinde, Juliette et aujourd'hui Cléopâtre, ces trois grandes figures des œuvres de Shakespeare sont au cœur des livres de Mustapha Fahmy, notre invité aujourd'hui. À partir de leur caractère, de leur destin, ils nous invitent avec un sens de la narration captivant et une écriture tout en finesse à ouvrir la réflexion sur des notions comme le pouvoir, la beauté, l'amour, le besoin, l'art et à nous poser plein de questions vertigineuses sur nos vies d'humains. Un véritable voyage philosophique dont on ressort plus qu'inspiré. Je vous en propose aujourd'hui un aperçu. Mustapha Fahmy, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, c'est vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui.
Vous êtes professeur de littérature anglaise à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous êtes un spécialiste de renommée internationale du grand, de l'immense William Shakespeare. Vous lui avez consacré des essais comme Shakespeare's Poetic Wisdom, la sagesse poétique de Shakespeare. Ouais. Et vous avez aussi commis trois essais inspirés de ces personnages. Je les cite, La promesse de Juliette, La leçon de Rosalinde et aujourd'hui, La beauté de Cléopâtre, qui est le dernier livre paru en mars dernier. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Alors, ma première question, juste pour les gens qui ne vous auraient pas encore lu, vous avez une écriture extrêmement sensible, très délicate. Il émane de vos réflexions une profonde sagesse. Vous avez un regard incisif sur les choses, mais vous dites toujours les choses avec beaucoup de douceur. On sent que vous avez un véritable amour de l'humain. Vous sondez l'âme humaine toujours avec beaucoup de bonté. D'où cela vous vient, cette façon de ressentir et de dire le monde?
Je crois que ça vient de ma profession de professeur. J'ai appris beaucoup. Vraiment, un des paradoxes du métier de professeur, c'est que la personne qui apprend le plus dans une salle de cours, c'est le professeur. Parce qu'on apprend plus lorsqu'on explique. Et surtout, lorsqu'on est passionné par un sujet, on trouve toujours, on essaie au moins de trouver la façon, la meilleure façon pour l'expliquer d'une façon simple. Alors, je crois que ça vient de là. Et quand j'ai décidé d'écrire un livre en français, parce que j'ai commencé à écrire en français un peu tard. J'ai écrit pendant longtemps en anglais. Il y a un collègue à moi à l'Université du Québec à Chicoutimi qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas comme tu enseignes et comme tu parles à tes amis » C'est-à-dire d'essayer de parler de sujets sérieux, des questions sérieuses sur la vie, de montrer comment la littérature et la philosophie peuvent nous aider à comprendre le monde, à comprendre les gens qui nous entourent et surtout à nous comprendre et essayer de le faire d'une façon très, très simple. Et ça, c'est la chose, je crois, la plus difficile.
C'est pour ça que vous avez mis en incipit, ou je ne sais pas comment on dit, les petites citations qu'on met au début des ouvrages. Dans la leçon de Rosalinde, il y en a une, la première, c'est « Je n'enseigne point ». Je raconte, c'est une citation de Montaigne.
De Montaigne, absolument. Et il y a même un aphorisme dans ce livre où je dis « La simplicité a deux sœurs, la grâce et la dignité. Ce qui est simple est souvent digne et gracieux. »
Je l'avais noté, cette page.
C'est ça.
J'ai beaucoup aimé cette citation.
Et je crois aussi profondément que la maturité de l'écrivain se fait vers la simplicité, pas la complexité. Pour moi, un écrivain qui devient de plus en plus compliqué avec le temps, c'est un écrivain qui se développe dans le mauvais sens, à mon avis.
Mais alors du coup, comment vous décririez votre style littéraire? Parce que vous avez écrit de la poésie, vous avez écrit des essais, mais ces ouvrages dont on parle aujourd'hui, c'est à la fois une explication presque de texte des personnages de Shakespeare. Vous vous en inspirez, on va y revenir, pour ouvrir des réflexions sur des choses de la vie. Parfois, il y a des aphorismes personnels, donc vous donnez des petits aperçus de vos opinions personnelles sur certains sujets. Donc ça peut presque être aussi des manuels d'histoire et de philosophie, parce qu'il y a énormément de références à l'histoire, et puis à Kant, à Nietzsche, là on a cité Montaigne. Donc comment vous qualifieriez vos écrits, finalement?
En fait, c'est ce que je fais dans mes cours, dans mes conférences et même aussi dans les essais académiques, mais bien sûr dans une langue différente parce que c'est écrit pour des spécialistes. Ici, je le fais d'une façon très, très simple. Ce mariage entre la littérature et la philosophie, pour moi, est un mariage tout à fait naturel. Pourquoi? J'adore cette citation de Nietzsche. Nietzsche dit que l'importance de la philosophie vient de sa capacité à nuire à la bêtise. La philosophie est importante parce qu'elle nuit à la bêtise. Non, pas dans le sens où elle met fin à la bêtise, non. Rien ne peut mettre fin à la bêtise, elle est trop forte. Il y a même des époques comme la nôtre où la bêtise se comporte très 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 bien. Non, la philosophie met fin à, la philosophie nuit à la bêtise dans le sens où elle la force de temps en temps à voir son visage dans le miroir et à avoir honte d'elle-même. Alors la philosophie m'a toujours protégé de la bêtise. Et la bêtise peut s'infiltrer même au sein des études universitaires, si on fait pas attention. Je connais des gens qui sont tellement pédants qu'ils deviennent bêtes. Je suis désolé de le dire. Mais c'est la réalité. Ils sont pas nombreux, mais ils existent quand même. Maintenant, la littérature a une autre importance, d'une autre nature. C'est que la littérature nous donne accès à des perspectives qu'on n'a pas. Et surtout, à des sentiments qu'on n'éprouve pas forcément. Imaginez si on n'avait pas la littérature.
Je ne veux pas imaginer.
Vous voyez? C'est-à-dire, on aurait accès uniquement qu'aux sentiments qu'on éprouve. C'est-à-dire, si je ne suis pas jaloux, j'aurais aucune idée de ce qu'une personne jalouse endure. Comment une personne jalouse de l'extérieur, les personnes jalouses, pour nous, c'est des gens difficiles, très difficiles de vivre avec une personne jalouse. Surtout si on n'est pas jaloux. On comprend pas. Pour nous, les jaloux, on nous rend la vie difficile. Mais je lis Othello de Shakespeare ou The Winter's Tale de Shakespeare. Et qu'est-ce qu'il fait Shakespeare? Il me donne accès à la psychologie de la personne jalouse. Et là, je vois ce qui se passe à l'intérieur et comment la personne jalouse souffre tellement. À la fin de la lecture, je ne deviens pas jaloux, mais j'ai une meilleure compréhension de ce que endure la personne jalouse. J'ai une meilleure ouverture et un peu plus de compassion envers les jaloux.
Donc la philosophie finalement protège de la bêtise et la littérature un peu de l'ignorance de l'âme humaine ou des méandres de l'âme humaine.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre des perspectives. Et comme ce qu'on appelle la vérité est souvent une perspective, multiplier ces perspectives, c'est multiplier les vérités. Et ça, c'est ce que la littérature nous donne.
Alors, vous avez commencé un petit peu à parler de Shakespeare. Vous avez grandi, vous êtes né, vous avez grandi au Maroc, et puis après, vous êtes parti faire étudier la littérature anglaise. Mais comment s'est faite votre rencontre avec Shakespeare? Parce que moi, mes souvenirs de jeunesse, quand on apprenait Shakespeare à l'école, c'était un cauchemar, parce que déjà rentrer dans l'anglais de la Renaissance, etc., c'était extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe. Mais vous, comment s'est faite votre rencontre et pourquoi vous en avez fait un compagnon de vie? Parce que quand on a passé sa vie à l'étudier, à l'enseigner et aujourd'hui à écrire des choses pour parler de ces personnages et des leçons qu'on peut en tirer, c'est votre compagnon de vie, Shakespeare, finalement.
Complètement, complètement. Et enfin, j'ai consacré ma carrière complètement à Shakespeare, ou presque complètement. Vous savez, on m'a posé une question... C'est ce que c'était, je crois que c'était au Salon du Livre de Havre. Quelqu'un m'a dit, sans si Shakespeare, votre vie serait comment? Et j'ai dit, je ne sais pas, parce que la rencontre avec Shakespeare n'était pas une rencontre normale, c'était ce qu'on appelle un événement. Et un événement, dans le sens philosophique du terme, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort de la loi ordinaire des choses. Ou, d'une façon plus précise, c'est quelque chose qui vient remplir un vide dont on n'était pas conscient. Si on est conscient du vide et on cherche à le remplir, alors la rencontre qu'on fait n'est pas un événement, c'est juste une rencontre. Elle peut être extraordinaire, mais c'est pas un événement. L'événement, c'est lorsqu'il y a un vide, mais on n'est pas conscient de ce vide jusqu'au moment où quelque chose vient le remplir. On sait qu'il y a un vide quand quelque chose ou quelqu'un vient le remplir. Et là, toute la vie s'organise autour de cet événement. Et si on reste fidèle à l'événement, on devient sujet de l'événement. La rencontre avec Shakespeare était un événement. Et je suis resté fidèle à cet événement. Et maintenant, c'est devenu presque mon identité. On m'appelle Shakespearean là où je vais. Et la rencontre, ça a été fait d'une façon vraiment, vraiment par hasard. Mon père, qui n'a jamais été à l'école, ni ma mère d'ailleurs, n'a jamais, jamais été à l'école, avait un salon de coiffure. Et lui, il ne savait pas lire, mais il achetait des revues pour ses clients. Et comme lui, il ne savait pas lire, alors il ne savait pas quoi acheter. Alors, parmi les revues, il y avait une revue, l'Arabie, je crois, qui venait à l'époque du Koweït. Je crois qu'elle existe toujours, je crois. Mais une de ces revues. Alors, moi, je passais toujours au salon pour lire la page sportive. Mais quand je trouve le journal dans les mains d'un client, alors pour attendre, je prends ce qu'il y a, je prends cette revue. Et un jour, je lis quelqu'un qui écrit sur un livre où le livre s'appelait, je me souviens très très bien du titre, « Hiwarun ma sadiq al-mulhid », « Dialogue avec mon ami l'athée ». Et le fidèle musulman, bien sûr, elle essaie de convaincre l'athée en lui disant que le Coran, notre livre sacré, est un miracle. Et l'athée lui dit, si votre Coran est un miracle, alors Shakespeare est un dieu. Parce que son écriture est miraculeuse et tout ça. Et moi, ça m'a piqué. Je dis, mais comment ose-t-il dire une chose? J'étais indigné. J'étais très, très jeune, bien sûr.
Et vous avez dit, c'est qui ce Shakespeare?
Voilà. Et ça a commencé comme ça. Alors, j'ai commencé à chercher Shakespeare et je crois qu'à l'âge de 15 ou 16 ans, je me promenais dans les rues de Casablanca avec un pull tricoté avec Shakespeare ici.
À ce point?
Absolument. Absolument.
Mais qu'est-ce qui vous a séduit tout de suite chez Shakespeare? Parce que j'imagine qu'à 15 ans, en plus, on ne maîtrise pas encore assez, je me trompe peut-être, mais l'anglais pour le lire...
Non, et... mais j'ai commencé par lire des traductions arabes. Et la première pièce que j'ai lue, c'est Macbeth. C'est une pièce noire, une tragédie vraiment sombre. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grand. Et même si je ne comprenais pas tout. Et après, bien sûr, parce que j'étais dans l'école anglaise, c'est juste un détail quand même important, The American Language Center à Casablanca. Alors, je me débrouillais un peu en anglais. Alors, après, j'ai trouvé la pièce, l'original, mais c'était illisible, très très difficile. Et même aujourd'hui, même les anglophones trouvent Shakespeare extrêmement difficile. Mais ça m'a servi, c'est-à-dire j'ai commencé à lire les deux. Et là, j'ai découvert que la traduction arabe de Khalil Mohtran était vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise. D'ailleurs, je le dis dans un aphorisme, je ne sais pas dans quel livre, je dis une traduction, c'est comme une réputation. Quand elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Il n'y a pas d'entre-deux. Et alors, ça m'a donné une idée... De la grandeur de cette poésie. Et il y a le premier passage que j'ai appris par cœur. C'est de Macbeth. Alors, la traduction de Khalil Mohtran m'a donné une idée sur le fond, le sens. Même s'il avait, il a pris trop de liberté dans la traduction. Et je le connais par cœur encore aujourd'hui.
Wow.
Ouais. C'est le dernier soliloque de Macbeth à la fin, avant qu'il soit capturé, exécuté. Il entend des femmes pleurer, il dit qu'est-ce qui se passe. Et on lui arrive avec cette mauvaise nouvelle, on lui dit « Lady Macbeth, sa femme vient de mourir ». Alors il sort ce passage magnifique, un des plus beaux passages de la littérature anglaise. Il dit « She should have died hereafter ». There would have been a time for such a world. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. 'Tis a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. C'est noir.
Mais là, je vous découvre un comédien aussi, parce que là, les gens ne vous voient pas, mais moi, je vous ai devant les yeux et vous êtes un véritable comédien quand vous récitez Shakespeare. Et cette dernière phrase, elle est tellement reprise. L'histoire est une...
Life is but a walking shadow. C'est une ombre qui passe. C'est comme ça qu'on traduit en français. La vie est une ombre qui passe. Mais l'ombre, ici, c'est un mot technique. L'ombre, c'est un mot... il désigne le figurant qui passe dans le théâtre. Mmh. C'est un mot vraiment lié au théâtre. Il y a des figurants qui passent sur la scène sans qu'ils parlent, n'ont pas de nom. Mmh. On les appelle les ombres. Shakespeare fait cette comparaison. Life is but a walking shadow, a poor player. Et continue.
Et l'histoire qui est un récit plein de fureur raconté par un idiot.
Plein de sons et de fureur. Voilà. Raconté par un idiot. Okay. D'ailleurs, cette phrase a été reprise par William Faulkner, son célèbre roman The Sound and the Fury, le son et la fureur.
Absolument. Alors, merci pour ce partage très personnel sur votre rencontre avec Shakespeare. Alors, vous l'enseignez, vous l'avez étudié, et puis vous revenir maintenant au livre que vous avez écrit à partir de ces personnages. D'abord, ce sont trois femmes. Juliette, bon, je pense que tout le monde sait qui est Juliette. La leçon de Rosalinde et la beauté de Cléopâtre. D'abord, pourquoi ces trois femmes ? Et pourquoi aussi les personnages de Shakespeare vous semblent très intéressants ? Vous en donnez une petite explication dans l'ouvrage. Vous dites que... et c'est Nietzsche aussi qui dit que pour illustrer ses propos et notamment son idéal esthétique, il ne cite pas d'autres philosophes, il cite les personnages de Shakespeare. Et pour vous, ces personnages sont des sources d'inspiration et des critères fiables pour évaluer certaines situations de la vie.
En fait, moi, je crois que, en général, la littérature est plus vraie que la vie. Et je crois aussi, j'ai la conviction, mais elle est personnelle, que les personnages littéraires des grandes œuvres sont plus vrais que les gens qu'on rencontre chaque jour. Moi, je connais Hamlet beaucoup plus que des gens de ma famille. Pourquoi ? Parce que la vie nous impose des contraintes. On peut pas dire ce qu'on pense dans la vie parce que ça peut créer des problèmes. On peut pas exprimer ni nos sentiments, ni ce qu'on vit, ni nos opinions, ni nos pensées pour plein de raisons. Mais tout ce qu'on peut pas exprimer dans la vie de chaque jour, on peut l'exprimer sans peur dans la littérature. Et quand c'est un génie comme Shakespeare ou Tolstoy, Dostoevsky, alors les personnages, ils sont... Et vous savez, on parle beaucoup de Hamlet. Hamlet, c'est la pièce la plus célèbre au monde. C'est pas ma pièce préférée de Shakespeare. Mais c'est la seule pièce, en fait, c'est le seul livre que, lorsque je suis en train de relire, je fais attention. Je manipule avec soin parce que j'ai eu cette idée qui est complètement folle, bien sûr, que si jamais je déchire la page, elle va saigner. Tellement le personnage est vivant. Beaucoup, beaucoup plus vivant que les gens que j'ai autour de moi. Alors, c'est pour ça que je fais référence aux pièces de Shakespeare. Maintenant, pourquoi les femmes? D'abord, la leçon de Rosalinde, le livre est dédié à ma mère parce que je voulais, dans un sens, célébrer l'intelligence féminine. Ça, c'est la première chose, parce que ma mère n'a jamais été à l'école, mais elle était brillante, elle était très intelligente. On n'est pas obligé d'aller à l'école pour être intelligent. L'autre chose, pour moi, le génie d'un écrivain, on le voit plus lorsqu'il crée des personnages différents de lui-même. C'est-à-dire le génie d'un écrivain, homme, d'un homme, on le voit dans sa capacité de créer des personnages féminins. Et le génie des écrivains, femmes, on le voit dans leur capacité de créer des personnages masculins convaincants, et c'est pas évident.
En fait, c'est la capacité de l'écrivain à se mettre dans une radicalité, dans une altérité radicale, qui
absolument.
Est de changer complètement de perspective.
Absolument, vous l'avez exprimé d'une façon plus forte que moi. C'est pas donné à tout le monde, c'est très 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 difficile. Pourquoi? Parce que généralement, on crée des personnages et on donne nos idées aux personnages. Alors moi, quand je lis un grand écrivain comme Dostoïevski, je peux détecter les idées de Dostoïevski chez Raskolnikov dans Crime et Châtiment, chez Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov, chez Versilov, ou même le jeune Arkady dans L'Adolescent et ainsi de suite. Je peux détecter les idées de Tolstoï chez Lévin dans Anna Karenine, c'est les idées de Tolstoï. Je défie qui que ce soit de détecter une seule idée de Shakespeare dans ses personnages.
Mais comment il y arrive alors?
C'est un miracle.
On y revient.
C'est un miracle. Pourquoi? Parce que Shakespeare a créé une panoplie incroyable de personnages complexes, différents, et chaque personnage a sa psychologie, son langage, sa sensibilité. Et on a essayé d'expliquer ce phénomène à travers les siècles. Comment il a fait? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette théorie, comme quoi c'est pas Shakespeare qui a écrit les pièces, c'est quelqu'un d'autre. Alors, il y a des gens qui disent c'est une femme qui a écrit parce que seule une femme a accès à la sensibilité, à la féminité, à la sexualité féminine et ainsi de suite. D'autres disent non, c'est un soldat. Seul un soldat peut décrire la peur, la veille d'un combat et ainsi de suite. Mais la meilleure explication, on la trouve chez Shakespeare dans un sonnet. Il dit « My nature is subdued to what it works in, like the dyer's hand ». Ma nature est soumise au travail qu'elle fait comme la main du teinturier. Quand le teinturier fabrique la couleur rouge, sa main devient rouge, jaune et ainsi de suite. C'est-à-dire que Shakespeare ne commence pas avec ses idées qu'il prête à ses personnages. Non, il se met dans le personnage et il commence à penser à partir de là. C'est facile de le dire, mais c'est presque un miracle.
Mais comment connaît-il si finement cette âme humaine?
Oui, oui.
Et la complexité de cette âme humaine?
Oui. Très, très difficile de l'expliquer. Tout à l'heure, j'ai parlé au tout début de l'événement. Il y a des événements et il y a des écrivains et des philosophes qui représentent des événements. Et un événement ne peut pas être réduit à ses causes. Par définition, l'événement est irréductible à ses causes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce sont ces conditions historiques, culturelles, religieuses, idéologiques qui ont donné naissance à Shakespeare. Et si on arrive à reproduire les mêmes conditions, on aura quelqu'un. Non, impossible. On peut utiliser ces conditions, étudier ce contexte pour mieux comprendre des aspects de ces pièces. Mais ça reste toujours Shakespeare, Mozart, Louis Armstrong, qui est pour moi le plus grand musicien du XXe siècle. Ce sont des événements. On ne peut pas les expliquer en les remettant, les resituant dans leur contexte de production. C'est comme ça.
Et c'est ça qui fait de l'ingénie?
Ah, mais absolument. Et je crois qu'une des maladies de notre époque, c'est qu'on refuse d'accepter l'incertitude, l'ambiguïté et le mystère.
On veut des réponses, on veut des certitudes.
Absolument, on veut des certitudes, des réponses. Et si on n'a pas de réponse, ben, on prend la première qui est disponible et on la colle à la situation. Alors qu'il y a des choses qu'il faut accepter, des situations ambiguës, incertaines, mystérieuses, qu'il faut juste accepter comme ça.
Il faut même danser avec elles. Là, j'utilise un mot que vous aimez beaucoup, parce que tout le livre, parce qu'on parle encore du fond et de la forme de vos livres, il est question de danse. Alors, en préparant l'entretien, j'ai du coup relu la leçon de Rosalinde. La promesse de Juliette, je l'ai prêtée et on ne l'a pas rendue. Mais j'ai retrouvé l'idée de la danse. Elle est au cœur de la beauté de Cléopâtre et on y arrive dans un instant. Mais dans la leçon de Rosalinde, déjà, même les titres de vos chapitres, vous parlez d'interlude, vous parlez de... Et puis, je vais essayer de retrouver la page, mais vous parlez déjà de la danse dans cet ouvrage. C'est quelque chose qui est important pour vous, le fait que dans la vie, on puisse, qu'on doive danser avec les incertitudes, avec les choses qu'on ne peut pas toujours comprendre?
Tout à fait. En fait, ce que j'essaie de montrer dans le dernier livre, et vous avez tout à fait raison, parce que l'idée, on la trouve même dans les autres livres, des remarques ici et là. Pour moi, l'idéal, c'est de faire de sa vie une danse. Enfin, le thème du livre, La beauté de Cléopâtre, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Et la métaphore la plus populaire qu'on trouve chez plusieurs philosophes, c'est la sculpture. Il faut sculpter sa vie. Il faut faire de sa vie une sculpture. Moi, c'est pas ma métaphore préférée parce que sculpter sa vie, c'est la figer dans une forme constante. Et une forme constante, elle peut être belle, mais les critères de beauté changent avec le temps. Et parfois, elle devient ridicule aux yeux des autres. Alors, pour moi, l'idéal, ce n'est pas de faire de sa vie une sculpture, mais de faire de sa vie une danse. Pourquoi? Parce que la danse, elle reste ouverte au rythme et à l'ambiance du temps.
Et c'est tout le contraire d'une marche militaire.
Oui.
Vous faites cette comparaison-là, je cite juste un extrait pour donner aussi envie aux gens de se précipiter et de lire. Votre livre, vous dites que la danse est une expression immanente, une sorte de fontaine dont on peut admirer le jaillissement et le glougloutement sans pouvoir les contrôler. Et le contraire de la danse n'est pas l'immobilité, c'est Alain Badiou qui le dit, mais la marche militaire. Si la danse symbolise la liberté, la spontanéité, l'oubli et la capacité d'être dans le moment présent, la marche militaire incarne la mémoire et l'obéissance stricte et monotone à une volonté extérieure.
Absolument. C'est Alain Badiou qui dit ça, mais il le dit en discutant Nietzsche, c'est-à-dire l'idée, c'est de Nietzsche. On a l'impression parfois que le contraire de la danse, c'est l'immobilité. C'est pas ça du tout. C'est la marche militaire. Et c'est quoi la différence? C'est que la danse, c'est une expression immanente. Elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que toute expression, toute affirmation de la vie est une danse. Toute affirmation de la vie est une danse, à condition qu'elle vienne de l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand elle vient de l'intérieur, elle représente à la fois la spontanéité, la vie dans le présent. Quand on danse, on ne pense ni au passé ni à l'avenir. On est dans le présent. C'est une des rares activités. On est plein dans le présent quand on danse. Elle représente aussi l'oubli. On sous-estime l'importance de l'oubli. On parle beaucoup de mémoire. Et pourtant, la mémoire, elle est difficile, elle est dangereuse, elle est douloureuse. C'est la beauté, c'est l'oubli qu'il faut chercher. Pourquoi? Parce que tous nos malheurs viennent d'où? Viennent d'un passé, d'une blessure ou d'une inquiétude de l'avenir. Quand on danse, on est dans l'oubli. C'est pour ça que je donne l'exemple de l'enfant. La leçon qu'on peut attirer d'un enfant, c'est que l'enfant, quand il joue, il est entièrement, complètement dans le présent. Il oublie tout ce qui se passe autour. Alors, la danse, comme métaphore de la vie, j'utilise ici comme métaphore de la vie, il faut faire de sa vie une danse, c'est-à-dire qu'il faut affirmer la vie. Et il faut, comme je dis dans un passage, faire de sa vie une danse, c'est se mouvoir physiquement ou intellectuellement au son de ses propres tambours. C'est-à-dire, il ne faut pas suivre le rythme imposé par quelqu'un d'autre. On m'a souvent posé la question, surtout au Canada. Oui, mais faire de sa vie une œuvre d'art, c'est intimidant parce qu'on pense aux dandies comme Oscar Wilde qui font de leur vie. Mais ce n'est pas ça du tout. Faire de sa vie une œuvre d'art, c'est tout simplement rassembler, prendre ses forces et ses faiblesses, les deux. Faut pas sacrifier les faiblesses. Ses forces et ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et rassembler tout ça à l'intérieur d'une forme. J'adore cette phrase de Hölderlin, il dit « Vivre, c'est défendre une forme. » Je trouve ça sublime. Il dit pas défendre une idée ou une cause, non. Vivre, c'est défendre une forme. Quelle forme? Une forme de vie. C'est-à-dire, si je veux vivre, je dois d'abord donner à ma vie une forme, une direction, un sens. Et à l'intérieur de cette forme, qui m'offre une perspective sur le monde, alors là, je peux choisir quelle cause défendre, quelle idée défendre, et ainsi de suite. Mais dans l'absence de cette forme, c'est-à-dire de cette perspective, alors là, je vais changer de cause, changer d'idée, changer de valeur. En fait, je vais passer ma vie à changer de valeur. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas cette forme, cette perspective qui me donne accès à ces choses-là. Voilà.
Donc finalement, c'est avoir un cadre qui vient de soi, qui est immanent, qui n'est pas imposé par l'extérieur, mais d'abord de le découvrir, de l'accepter. Accepter peut-être aussi qu'il ne soit pas nécessairement harmonieux. Est-ce qu'une danse a nécessairement besoin d'être harmonieuse? Ou est-ce que ce cadre que l'on donne peut aussi ne pas être harmonieux? Parce que vous l'avez dit, il y a les qualités, les défauts, il y a les parts de lumière, il y a les parts d'ombre. Et finalement, arriver à faire de tout ça quelque chose d'où émane de la joie, finalement. C'est ça le plus important?
Absolument, absolument. Et la joie, j'aime beaucoup le terme. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime la définition de Spinoza de la joie. Pour Spinoza, la joie, c'est un passage d'une moindre à une plus grande existence. C'est-à-dire que lui, pour lui, le désir, c'est l'essence de l'homme. Mais le désir, pour lui, est une trajectoire. Elle monte et elle descend. Alors, quand elle monte, on passe d'une moindre à une plus grande existence. Et là, on sent qu'il y a un peu plus d'espace autour de nous, qu'on respire mieux et qu'on existe un peu plus. Alors là, on est dans la joie. Quand la trajectoire descend, alors on passe d'une plus grande à une moindre existence. On a l'impression qu'on respire moins, qu'il y a moins d'espace autour de nous et qu'on existe un peu moins. Alors on est dans la tristesse. Oui, alors vous avez raison de dire la joie, oui. Est-ce qu'il y avait une question à... J'ai oublié, est-ce qu'il y avait une question?
Non, mais cet entretien ressemble à une danse totalement improvisée, j'avais une idée de où on allait, alors on va pas perdre le fil, mais on était parti sur la danse, parce que je parlais de la composition des écrits, le fait que ça fait écho à des choses que vous disiez déjà dans la leçon de Rosalind, mais on va revenir au moins sur la piste de danse, pour un moment, pour parler de Cléopâtre, parce que tout à l'heure, on était parti de la question « Pourquoi des femmes ?» Donc, vous m'aviez expliqué la leçon de Rosalind, d'un hommage à votre maman, l'Irma, maintenant, la beauté de Cléopâtre, pourquoi avoir choisi cette figure? Bon, évidemment, c'est une immense figure de l'histoire, réputée pour sa beauté, que Shakespeare ne décrit d'ailleurs jamais. Il la décrit à travers l'effet qu'elle produit sur les autres, mais il ne décrit jamais véritablement Cléopâtre. Quels sont d'abord les grands thèmes de cette pièce de Shakespeare que vous avez voulu mettre en avant? Je crois qu'il y en a deux, la moralité et le romantisme.
Et la politique aussi. Ces trois derniers livres sont écrits principalement à un public francophone, que ça soit au Québec ou au Maroc. Et j'ai remarqué que dans le monde francophone, on connaît bien sûr Shakespeare, mais on connaît surtout les grandes pièces, Hamlet, Macbeth, Le Roi Lear, Midsummer Night's Dream, etc. Mais on connaît pas assez bien Antoine et Cléopâtre, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. C'est une des plus grandes pièces de tous les temps. Et Shakespeare a créé plusieurs personnages familiers remarquables, d'une complexité, d'une profondeur incroyable. Rosalind, Juliette, Portia, Viola, Lady Macbeth, mais son plus grand personnage féminin. Et là, les Shakespeareens sont unanimes. Et les actrices sont unanimes. C'est Cléopâtre. C'est le plus grand personnage féminin de Shakespeare, et moi, j'oserais dire, de toute la littérature anglaise. Et parce que elle est d'une complexité incroyable, d'une profondeur incroyable et d'une intelligence incroyable. Et son intelligence, sa sensualité, ça est purement féminine. C'est pour ça que ces gens-là disent « Non, Shakespeare n'avait pas accès à la sensibilité féminine. C'est une femme qui a écrit ce rôle-là. Impossible qu'un homme... Non, un homme ne peut pas. » Même ses blagues, même ses jeux de mots sont sexuels, mais sexuels à partir de la perspective de la femme. Et en plus, c'est une personne extrêmement intelligente. C'est une grande dame, Cléopâtre. Le problème de Cléopâtre, c'est quoi? Sa tragédie, c'est quoi? C'est que c'est une grande dame, mais son histoire a été racontée par ses ennemis. Et ses ennemis, parmi ses ennemis, il y a de grands écrivains romains. Alors, déjà avoir des ennemis, c'est pas très agréable. Et quand ton ennemi a du talent, alors là, c'est l'enfer. Moi, si on a des ennemis, on préfère qu'ils soient pourris, qu'ils soient.
Qu'ils ne puissent pas nier.
Exactement. Alors, c'est ses ennemis qui ont raconté son histoire et ils l'ont raconté de leur perspective. Alors, ils l'ont décrit comme quoi? Une femme fatale. Une femme très belle, mais dont le seul objectif, c'est de détruire les grands hommes, que ce soit Jules César ou Marc-Antoine. Mais c'est une grande dame, c'est une grande politicienne, une savante, elle parlait plusieurs langues, vraiment couramment. Alors, je voulais écrire sur cette pièce depuis longtemps, et je l'ai enseignée pendant des années. Et à chaque fois, à la fin de la session, quand j'enseigne cette pièce, je dis, c'est la dernière fois. Chaque fois, frustration, chaque fois. Je dis, c'est la dernière, mais l'année d'après, je dis, ah, encore. Et depuis 25 ans que je dis la même chose. Et pourquoi? Parce que, contrairement aux autres pièces, comme Hamlet ou Macbeth ou Le Roi Lear, les autres pièces sont grandes, mais il y a toujours des moments de répit où on peut respirer. Dans toutes les grandes pièces de Shakespeare. Même avant une scène extrêmement tragique, il y a toujours ce qu'on appelle de comic relief, ou avant ou après. On se calme, pas dans cette pièce. De la première phrase jusqu'à la dernière. C'est une beauté intense et qui dure toute la pièce. Et quand on met là l'intensité et la durée ensemble, deux choses, où ça mène à l'épuisement ou à l'extase. Alors, quand j'enseignais, ça menait toujours à l'épuisement, jamais à l'extase. Alors, moi, j'étais à la recherche de cette extase.
Vous l'avez trouvé en écrivant?
Je ne sais pas.
Mais toujours, que nous apprend, que nous enseigne, parce que vous partez toujours de ces personnages pour en tirer, peut-être pas des réponses, mais en tous les cas, des réflexions sur la nature humaine et l'âme humaine, mais que nous apprend en particulier l'histoire de Cléopâtre et Marc-Antoine, à la fois sur les relations, peut-être d'abord sur les relations entre l'amour et le pouvoir.
Ah, je crois que le sujet, le thème principal de cette pièce, selon plusieurs, selon pas selon la majorité des lecteurs, c'est que c'est une pièce sur l'amour et le pouvoir et la difficulté de marier les deux. C'est que on peut pas conjuguer, l'amour et le pouvoir. Ou on choisit un des deux, ou on choisit l'amour, ou on choisit le pouvoir, mais les deux, ça mène à la catastrophe. C'est un peu comme ça qu'on a essayé d'interpréter cette pièce, mais c'est une interprétation que je trouve trop simple, même simpliste.
Limitée.
Très limitée. Moi, je ne crois pas que c'est une pièce sur l'amour ou le pouvoir. Non, il y en a des pièces comme ça, il y en a plein. Non, pour moi, c'est une pièce sur la limite du pouvoir et la limite de l'amour. C'est quoi la limite du pouvoir? La limite du pouvoir, c'est la domination du monde. Chaque politicien rêve de dominer le monde comme il le définit. Le monde d'un politicien peut être sa ville, sa province, sa région, le continent ou le monde entier. Comme le font maintenant les Américains, les Chinois, les Romains avant. La limite de la politique, c'est la domination du monde. Maintenant, la limite de l'amour. La limite de l'amour, c'est de prendre le monde qu'on a dominé et de le sacrifier pour la personne qu'on aime. Pourquoi j'adore Marc-Antoine? Parce qu'il est le seul homme dans l'histoire à avoir fait les deux. Il a dominé le monde était à ses pieds, il était l'homme le plus puissant au monde. Et il a choisi de sacrifier ce monde pour Cléopâtre. C'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. S'il avait choisi le monde plutôt que Cléopâtre, moi je crois pas qu'on... En tout cas, moi je parlerais pas de lui. Je le trouverais moins intéressant.
C'est ce qui fait c'est ce qui le rend intéressant, c'est cette capacité à, dans cette équation-là, à avoir choisi l'amour.
C'est exactement ça, parce que dans l'amour, ce qui compte, c'est pas ce qu'on accumule, c'est pas comme le pouvoir. Le pouvoir, ce qui compte, c'est ce qu'on est prêt à aller chercher, à accumuler. Dans l'amour, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser partir par amour? C'est ça qui donne de la valeur à l'amour. Et lui, il a dit, ben, si ça vaut le monde, ben, je sacrifierai le monde.
Quel homme!
Absolument.
Sur le pouvoir, il y a aussi un très beau passage dans La beauté de Cléopâtre sur la question du charisme qui m'a beaucoup intriguée et beaucoup interrogée, parce que vous commencez par donner quelques définitions, en tout cas les grands traits caractéristiques du charisme, qui passe par le magnétisme, la prestance, l'éloquence, la théâtralité, tout On pense à quelques personnages aujourd'hui politiques qui rentrent dans cette définition. Je pense évidemment au président américain, oui. des gens qui incarnent aujourd'hui oui. cette espèce de force sur la scène politique. Et en même temps, vous dites, en parlant de ce charisme, qu'il est incompatible avec la démocratie, que le charisme finit quelque part par devenir incompatible avec la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que c'est un des éléments importants oui. que vous développez dans ce
oui,
livre.
Oui, et dans ce chapitre d'ailleurs, ce chapitre est une lecture des États-Unis actuellement, ce qui se passe aux États-Unis. J'ai commencé à écrire ce livre il y a 2 ans, mais on a commencé déjà à l'époque à parler d'un retour de Donald Trump, mais moi j'étais certain qu'il allait revenir. Ben, je vis au Canada, on sait ce qui se passe aux États-Unis. Et j'étais certain qu'il allait revenir parce que Donald Trump c'est pas un phénomène exceptionnel, il n'est pas tombé du ciel. C'est le produit d'une vision, d'une mentalité, d'une énergie sociale et idéologique qui circule dans la société occidentale depuis quelque temps. Là. Moi, je suis pas surpris du tout. Alors, j'ai écrit ça, bien sûr, comme commentaire sur les États-Unis comme une démocratie très avancée. Ben, je nomme jamais les États-Unis ni Trump. D'ailleurs, dans tous mes livres, je parle des choses sans les nommer. Je nomme jamais les choses.
Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de oui. finesse, parce que dans la description, il y a des choses qui sont posées d'une manière à la fois très accessible. Ça, c'est votre côté enseignant. Et en même temps, on voit de qui ou de quoi vous parlez sans avoir besoin de le dire, en fait.
C'est ça, parce que lorsqu'on parle des choses en les nommant, on provoque des réactions. Les gens vont lire et vont réagir, et ceux qui sont d'accord vont rester d'accord, et ceux qui sont contre vont rester contre. Mais quand je parle des choses sans les nommer, je ne provoque pas de réaction, je provoque des réflexions. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que les gens poussent leurs propres réflexions. J'ai pas besoin de leur dire quoi penser, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Et je parle ici du charisme, et ce que nous savons du charisme vient du grand penseur allemand Max Weber. Et il y a deux sortes de charisme. Il y a le charisme institutionnel qui est associé à un poste. Alors, on voit le médecin avec son tablier blanc, il est charismatique. On le voit à l'extérieur, il ne paye pas de mine. Parfois, il est vraiment... ou un juge, un politicien. Mais il y a le charisme pur. Et vous avez nommé les caractéristiques, ce magnétisme, cette théâtralité, cette capacité de convaincre les gens. Une personne charismatique va toujours convaincre les gens de le suivre. Et les gens charismatiques ne sont jamais choisis parce qu'ils ont le profil qui correspond à la fonction. Jamais. Ils sont choisis parce que ils arrivent à convaincre les gens qui sont les meilleurs pour une cause particulière. Et ces gens-là, généralement, ce qu'ils demandent à ceux qui les suivent, c'est « Est-ce que vous aimez ce que je fais ?» Si oui, je vous demande obéissance totale et je vais vous en donner plus. Mais ne remettez jamais en question mes décisions et surtout ne me demandez pas de vous consulter. C'est ça, les charismatiques. Et pourquoi ils sont compatibles avec la démocratie? Parce que justement, la démocratie est basée sur la consultation et le vote. Et la disparition, d'après moi, la disparition graduelle des personnages charismatiques dans le monde de la politique est, à mon avis, associée au développement de la démocratie et des redditions de comptes. La personne charismatique n'aime pas rendre des comptes.
Et donc finalement, la baisse, ce que vous appelez la disparition progressive de grands leaders charismatiques est liée à ça.
Moi, je suis convaincu.
Alors, puisqu'on parle de l'éloquence, etc., je voudrais qu'on parle aussi un moment de la rhétorique, parce que là aussi, vous en parlez, et là, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Vous évoquez le moment où Jules César est assassiné. Par Brutus et d'autres sénateurs romains. Et Brutus arrive devant le peuple et lui fait un discours pour justifier, sans dire évidemment que c'est une traîtrise qui a été faite à Jules César, pourquoi il a été tué. Donc, vous pouvez nous donner les raisons qu'il avance. Et tout de suite après arrive Marc-Antoine, qui arrive, en un discours, à complètement retourner la foule au point qu'ils finissent par crier vengeance, alors qu'au début, quand Brutus arrive, ils sont tous acquis aux paroles de Brutus. Et Marc-Antoine retourne la situation par son discours. Moi, je ne le savais pas, mais c'est un discours qui est étudié aujourd'hui en matière de rhétorique.
Partout dans le monde.
Et j'aimerais que vous nous en parliez, parce que je trouve ce pouvoir de la rhétorique, et encore une fois, sur cette question du lien au pouvoir et au charisme, fascinante.
Absolument, c'est un discours, c'est, d'ailleurs il est considéré, Jules César n'est pas considéré comme une des très grandes pièces de Shakespeare, mais ce passage-là, c'est un chef-d'œuvre. Et il est enseigné dans toutes les écoles de rhétorique, et les politiciens, selon leurs propres aveux, ils s'inspirent encore aujourd'hui de ce discours. Le discours d'Obama en 2009, je crois, si je me souviens bien, son célèbre discours, où il est vraiment devenu célèbre, Obama, on connaissait pas avant. Non seulement il a choisi vraiment, il a suivi toutes les étapes du discours de Marc-Antoine, mais il a même appelé ses adversaires « honorable men ».
Comme le fait Marc-Antoine,
absolument,
en parlant des sénateurs.
En parlant des sénateurs, des conspirateurs qui ont assassiné Jules César, il les appelle « honorable men » et il répète la phrase, il la répète. Alors à chaque fois, il la répète, il lui ajoute une touche d'ironie jusqu'à ce que ça change. Ce que Shakespeare a voulu nous dire ici, deux choses. La première chose, c'est que la foule, le peuple n'apprend pas de ses erreurs. Ça, c'est la première. Et l'autre chose... Il nous donne deux personnes très très éloquentes, Brutus qui est un savant et Marc-Antoine qui n'est pas un savant mais un charmeur et un soldat. Et comment Brutus a parlé en premier, il parle au peuple et le peuple est convaincu. Et de quoi il parle? Brutus, il parle de cause noble, de liberté, de démocratie. Ce sont des principes et des notions qui sont grandes. Alors, le public, il entend ça, il est d'accord, mais il n'assimile pas ces notions. Après, c'est Marc-Antoine qui arrive. Et quand Marc-Antoine arrive, il arrive devant une audience hostile. Il voulait pas l'entendre, parce qu'il était déjà convaincu par Brutus. Alors il arrive, mais lui il ne parle pas de valeurs ni de principes. Non, il raconte une histoire. Une histoire d'amitié, de trahison, de loyauté, etc. Et là, il change tout. Et ce que Shakespeare nous dit, et se trouve, c'est ça l'originalité de la pensée politique de Shakespeare, c'est que lorsque Shakespeare a écrit cette pièce, il s'est basé, et Antoine et Cléopâtre aussi, il s'est basé sur le livre de Plutarque, l'historien et philosophe grec. Et selon Plutarque, l'histoire est faite par les grands hommes. C'est une théorie qui était très, très connue à l'époque. Au 19e siècle, Marx nous dit le contraire. Non, ce n'est pas les grands hommes qui font l'histoire, c'est les peuples, par leur soulèvement et leur révolution. Shakespeare, qui à mon avis connaît l'être humain mieux que Marx et Plutarque, il dit « Mais non, vous vous trompez, non ». L'histoire est faite par les manipulateurs. Ce sont les manipulateurs qui manipulent et les peuples et les grands hommes qui font l'histoire. Et ils le démontrent d'une façon absolument magistrale dans cette pièce.
Et c'est la conclusion de ce passage sur le discours de Marc-Antoine. Oui. Il nous reste malheureusement 5 minutes. On a parlé de tellement de choses que le temps est passé très très vite, mais j'aimerais néanmoins qu'on s'arrête un instant sur ce grand philosophe, historien du XVIIIe siècle, Giambattista Vico, parce que ça aussi, dans votre réflexion, dans ce livre sur la question du pouvoir et des cycles de l'histoire, moi je ne le connaissais pas. Et est-ce que vous pourriez, donc, pour les gens qui nous écoutent, nous dire juste un aperçu des cycles que lui a identifiés. Parce que là encore, sans que vous ayez besoin de dire les choses, on sent le parallèle avec des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Oui, absolument. Et oui, ben, je suis content d'entendre cette question, parce que Giambattista Vico est un philosophe que j'aime beaucoup, mais malheureusement il n'est pas très très connu. Et pourtant il a influencé d'autres grands philosophes comme Marx par exemple. Et pourquoi je parle de Vico? Parce que Vico a la même lecture de l'histoire que Shakespeare, là, absolument la même. On voit les mêmes siècles, c'est les mêmes cycles. Alors selon Vico, et c'est ce que Shakespeare démontre aussi dans ses pièces historiques, pas seulement ses pièces romaines, mais aussi les pièces anglaises. c'est que les nations peuvent naître, se développer et peuvent même disparaître dans un mouvement cyclique. Et chaque cycle est constitué de trois stades. Le stade théocratique, où la société, ou le stade théocratique, le stade théocratique des dieux, le stade aristocratique des héros et le stade démocratique des humains. Alors, le stade des dieux, le stade des héros et le stade des humains. Dans le stade théocratique des dieux, la société est gouvernée par une pensée religieuse, divine. Les seules lois acceptées, c'est les lois divines. Et les gens sont deux catégories. Il y a les fidèles et les infidèles. Et les fidèles, ou les pieux, ont parfois même le pouvoir de vie ou mort sur les deux, sur les autres. À un moment donné, les gens n'acceptent plus de vivre dans ce stade théocratique. Ils le trouvent étouffant, très contraignant. Alors, ils se soulèvent contre. Et les gens qui mettent fin au stade théocratique des dieux deviennent des héros. Et on les appelle les héros de l'indépendance, de la révolution. Et on les voit, bien sûr, on connaît dans le monde arabe plein de héros de révolution. Dans ce stade, le stade des héros, les lois sont les lois de la force de l'action, de la réaction ou des propos. On voit ces héros toujours fâchés, toujours irritables, toujours...
La question de l'honneur aussi.
Bien sûr. Et l'honneur et la honte deviennent très, très importantes comme valeur. Et on a deux classes qui émergent dans cette société. C'est plus les fidèles et les infidèles, c'est les courageux et les lâches. À un moment donné, ce qui met fin au stade des héros, c'est qu'à un moment donné, les héros commencent à prendre des proportions divines. Ils deviennent des dieux. Et là, ils rencontrent le même sort que les dieux au début. Et là, ça donne naissance au troisième âge, au troisième stade, qui est le stade démocratique des humains, où les gens qui gouvernent ne sont ni des dieux ni des héros, mais des humains, des hommes et des femmes comme nous. Et ça, c'est la démocratie. Mais qu'est-ce qui arrive à la démocratie? C'est ce qu'on est en train de voir aux États-Unis, entre autres. C'est qu'à un moment donné, les valeurs sur lesquelles la démocratie est basée, on les pousse à l'extrême. Et lorsqu'on pousse une valeur ou une vertu à l'extrême, elle devient un vice. Et toutes les valeurs, le commerce, pourquoi on a inventé un commerce? C'est pour mettre fin à l'avidité de l'être humain. L'être humain veut gagner, ok, on va établir un système de commerce et là, travaille fort et tu vas devenir riche. La férocité, l'être humain est violent. Alors là, on va transformer la férocité en un système militaire, système de défense. Ok, tu es fort, ben tu vas défendre ton pays, ta nation, ainsi de suite. L'ambition, l'être humain est ambitieux. Ok, tu es ambitieux, ben pourquoi tu te présentes pas en élection et si tu gagnes, ben tu vas avoir le pouvoir que tu convoites. Le problème, c'est que on a tellement poussé ces choses-là. On le voit aux États-Unis. Alors, la férocité est devenue un système de défense, mais le système de défense, on l'a poussé à l'extrême et c'est devenu un système d'agression, de domination et de contrôle du monde. Le commerce, c'était avant l'avidité, c'est devenu le commerce. Mais maintenant, le but du commerce, ce n'est pas de faire de l'argent, de prospérer, mais de mettre fin à la compétition complètement pour s'emparer du marché. Tu es la compétition. L'ambition. Pourquoi maintenant on se présente en politique? Pas pour rendre la société meilleure, non, mais pour contrôler la société, pour la manipuler. Et là, ces vertus qu'on a poussées à l'extrême sont devenues des vices. Et là, les gens, dans les démocraties comme aux États-Unis, ne s'identifient plus à ces valeurs. Alors, ils tournent le dos à la démocratie et ils cherchent des valeurs dans la religion, dans les histoires, dans la mythologie. Et là, c'est bien sûr le moment où tous les charlatans prospèrent maintenant. On a soif de nouvelles idées. On croit n'importe quoi maintenant aux États-Unis. Et c'est là où on assiste à la fin du stade démocratique. Et il y a toujours, selon Vico, le retour du stade théocratique. On le voit aux États-Unis. C'est un pays où la religion est de plus en plus forte. On m'a posé la question à la radio au Canada plusieurs fois. Est-ce que c'est inévitable? Je ne sais pas. Mais si l'être humain ne change pas ces choses-là, c'est inévitable. Moi, je crois qu'aux États-Unis, c'est inévitable. Parce qu'on est allé trop loin. Ce que je trouve fascinant chez Vico, c'est qu'il dit que à la fin du cycle, avant le basculement. Avant que l'autre cycle revienne, il y a une période qui s'appelle la période chaotique. Moi, j'appelle dans le livre la période floue, où on ne sait pas en quoi croire, ni quelle cause défendre, ni quelle beauté défendre, ni quel art produire. Et moi, je crois qu'on est dans... Il se peut que je me trompe, je ne sais pas, mais je crois que Vico et Shakespeare, dans leur lecture d'histoire, je crois qu'ils ont raison.
Merci beaucoup, Mostafa Fahmy, pour ce dialogue que j'aurais aimé faire durer plus longtemps. Mais j'espère qu'on aura une autre occasion de vous retrouver. Je rappelle vos trois livres, La promesse de Juliette, La leçon de Rosaline, et puis le dernier, La beauté de Cléopâtre. Il y est question, en fait, dans tous vos livres, il est question à la fois... en partant des personnages de Shakespeare, de réfléchir sur des grandes questions, la littérature, l'art, le pouvoir, l'histoire, on en a parlé, et puis aussi des choses plus intimes, plus personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer? Qu'est-ce que ça veut dire d'éduquer? Qu'est-ce que ça veut dire de respecter, de reconnaître une personne? Donc des choses qui parlent finalement à tous. Et je vais conclure par une de vos citations pour vous dire merci. C'est dans La beauté de Cléopâtre et c'est un de vos aphorismes. Vous dites... Les histoires humaines sont tissées avec les mêmes fils, des rêves et des cauchemars, des espoirs et des déceptions, des souvenirs et des blessures. Le reste, c'est de la couleur que chacun de nous ajoute selon le climat, la saison ou la tendance. Merci d'ajouter de la couleur avec vos textes, Mostafa Fahmy.
Merci beaucoup, Hanan, merci.